L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est écologie. Alors, on invite parfois le vivant non humain, le vivant qui pousse dans la forêt, dans les prés, le vivant à poil et à plumes, ou à écailles, ou à pustules, comme c'est le cas notamment aujourd'hui, avec votre herpétologue préféré, un herpétologue qui est un spécialiste des amphibiens et des reptiles. Chez Bretagne Vivante, c'est Stéphane Visa qui joue ce rôle. Il nous a déjà présenté la vipère péliade, le crapaud épineux. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bon, avant de découvrir notre invité du jour, est-ce qu'on peut revenir sur la situation des amphibiens et des reptiles en général sur la liste rouge nationale de 2015?
Oui, oui, oui. Alors, en 2015, donc, est parue la fameuse liste rouge nationale, mais aussi, la même année, une liste rouge régionale. Voilà. Et alors, une liste rouge, j'ai peut-être rappelé en deux mots ce que c'est, pour les auditeurs. C'est une liste, comme son nom l'indique, qui classe les animaux selon le degré de menace qui pèse sur eux à court ou moyen terme. Donc, le risque de disparition, quoi, hein, pour être plus précis. Et du coup, sur la quarantaine d'espèces qui existent d'amphibiens, il y en a autant à peu près de reptiles à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on s'est rendu compte qu'il y avait 40% d'espèces qui étaient menacées de disparition. Et ça, c'est pour les reptiles, et 60% pour les amphibiens. Donc la situation...
Ouais, carrément de disparition, quoi.
Oui, oui, oui. Alors, c'est des menaces plus ou moins fortes, mais risque de disparition. Et puis, en Bretagne, c'est peu ou prou la même situation, en sachant qu'on a beaucoup moins d'espèces. Hein. Il y a 9 espèces de reptiles et puis une quinzaine d'amphibiens. Et il y a 4 espèces de reptiles pour lesquelles la situation est particulièrement sensible, dont une où c'est très préoccupant, c'est la vipère péliade, en fait, dont j'ai parlé la dernière fois. Mm-hmm. Voilà, comme ça, un peu rapidement, un petit peu le...
Ouais, c'est pour avoir une idée. Donc, on n'est pas plus vertueux en Bretagne qu'ailleurs.
Non.
D'accord.
Non.
Et cependant, ce matin, alors, Bretagne Vivante était donc à Plougastel-Daoulas, au lieu dit le Rosier, donc, sur une exploitation maraîchère bio de Haute-Burgée. Alors, c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était à cet endroit-là que vous étiez?
Justement, on a fait un communiqué de presse, en fait, pour parler justement de la situation des reptiles, là, pour le coup, alors que c'était plutôt un temps amphibien, finalement. Voilà. Donc, on n'a pas vu grand-chose, parce qu'il pleuvait et ça manquait clairement de soleil. Voilà, c'est ça. Donc, pour parler des... Mais en tout cas, on a parlé de reptiles. Donc, il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient là. Et puis, l'idée, c'était de leur présenter un petit peu de l'état de conservation de ces bêtes-là à l'échelle de la Bretagne. Et on l'a fait là, spécifiquement, sur cette prairie, parce qu'on a installé un protocole, en fait, de suivi des reptiles.
Et c'est, voilà. ça marche comment, en gros, un protocole de suivi, pour avoir une idée?
Alors, ça marche de la façon suivante. On installe des plaques à reptiles. Alors, ce sont des plaques en caoutchouc qu'on récupère dans les carrières. Et on fait un suivi le long de ces plaques. En fait, il y a une douzaine de plaques installées en 3 séries.
Mais on regarde leurs traces ou on met des capteurs?
Ah non, on met juste les plaques et puis on va voir dessus, les plaques s'il y a des reptiles. D'accord. Et on compte et on note et on fait 6 passages en 2 mois et on fait ça sur plusieurs années. Et puis après, il y a 70 sites à peu près à l'échelle de la Bretagne qui sont équipés comme ça de plaques. Et donc ça permettra d'avoir des infos un peu quantitatives sur les populations de reptiles, ce qui nous manque.
D'accord, et c'est mieux évidemment dans une exploitation bio et dans une prairie, quoi, c'est ça?
En général, à Bretagne Vivante, le déploiement de ces protocoles est fait plutôt sur nos réserves, parce qu'on gère des espaces naturels. Mais là, pour le coup, on a eu la possibilité de le faire chez un paysan, et c'est très bien. Et alors après, que ça soit bio ou pas, bah, c'était pas ça, c'était, mais c'est surtout que les haies en fait sont en capacité d'accueillir des reptiles, parce ouais. que il y a haies,
voilà. Oui, c'est ça, des bonnes haies là,
voilà,
ouais,
là alors c'est des haies de feuillus avec un couvert végétal dense, enfin il y a de quoi accueillir des bêtes, et du coup on s'est installé là parce que voilà, ça semblait accueillant.
D'accord. Alors, dans cette émission, justement, on essaie donc d'être étonné en découvrant un petit peu plus une espèce en détail et puis de traverser toutes ces problématiques qui concernent les amphibiens et les reptiles. Et aujourd'hui, donc, c'est l'halite accoucheur. Un petit son comme une flûte, un petit peu. Alors, c'est un son qui est signé Olivier Grosselet et qu'on peut trouver sur la sonothèque du Muséum national d'histoire naturelle. Donc, alors, c'est un crapaud. Est-ce qu'on peut quand même vite faire rappeler la différence entre crapaud, grenouille et rainette éventuellement?
Oui. Alors, une différence pratique un peu de terrain, parce que finalement, sous le terme crapaud ou grenouille, on met des choses un peu différentes qui n'ont pas forcément la même histoire. Donc ça ferait peut-être hurler les taxonomistes purs et durs, ce que je vais raconter. Mais en tout cas, sur le terrain, bah, les crapauds, en général, ils marchent et ils ne sautent pas. Et ils ont une peau pustuleuse, granuleuse, enfin voilà, les fameuses verrues des crapauds. Les grenouilles et les rainettes ont la peau plutôt lisse et elles sautent. Et les rainettes en plus ont des ventouses en fait aux doigts, donc sont des espèces plutôt arboricoles, quoi.
D'accord, très bien. Alors donc l'halite accoucheur en l'occurrence, à quoi est-ce qu'il ressemble? Donc à part qu'il a des pustules sans doute, mais
oui,
sinon...
oui. Alors c'est quand on pense crapaud, on a l'image du crapaud épineux dont j'ai déjà parlé ici. Alors l'halite accoucheur, il lui ressemble, mais en version réduite, quoi. C'est tout petit.
Ah bon?
Ah oui, c'est minuscule. Ça fait 5 cm de long, quoi, du museau à la queue, mais à l'absence de queue plutôt,
oui.
Parce que c'est un crapaud.
Les anours,
oui,
non, c'est
voilà,
ça.
Les anours,
ça veut dire qu'on n'a pas de queue, c'est ça.
Voilà. Donc, ça tient dans la paume d'une main, quoi. Hein.
Ah oui,
c'est vraiment minuscule.
Mais c'est trapu quand même.
C'est vraiment une allure de crapaud, mais un tout petit. Et puis, la différence aussi notoire avec le crapaud épineux, c'est la pupille qui est orangée chez le crapaud épineux, tandis que là, c'est une pupille qui est fendue verticalement et qui est dorée. Voilà, donc il a quand même une allure particulière, mais on l'entend plus qu'on ne le voit.
Ouais, c'est ça, on le reconnaît vraiment au son. C'est très joli en fait. Quand on connaît pas, on se dit mais non, les crapauds ça fait pas du tout ce bruit-là, mais si.
Eh oui. Ah oui, bien souvent.
Quand ils sont flûtés, quoi. Enfin,
ah oui, bien souvent les gens ont ça. Dans leur jardin ou au niveau du talus à côté de chez eux, et ils n'imaginent pas que ça puisse être un crapaud. Non. Ils pensent plutôt que c'est un grillon. C'est vraiment très particulier.
Et c'est quelle couleur sa peau en gros?
Ah, c'est marron. Ouais, marron. C'est ça, ouais. Ouais, marron.
Et il n'y a pas de différence entre les mâles et les femelles, enfin pas notable.
Il y a des différences de taille en fait. Chez les crapauds, la femelle est toujours un peu plus grosse que le mâle. Ouais. Et le mâle chante, voilà, pas la femelle.
Pas la femelle, ouais, c'est ça, bien sûr, parce qu'on va voir à quoi ça sert tout ce chant. Alors, où est-ce qu'on le trouve en général? Déjà, en France, où est-ce qu'il se répartit? Alors, j'imagine qu'il est en Bretagne, puisqu'on en parle, mais...
Alors, à l'échelle de la planète, c'est ce qu'on appelle une espèce ibéro-atlantique étendue. Voilà. Alors, ça veut dire que globalement, on le trouve du Portugal jusqu'à l'Allemagne, en passant par le littoral... Atlantique, par
donc
la façade
vraiment européen,
atlantique.
Quoi. On trouve pas dans les autres continents.
Oui. Et pas partout en Europe même. Hein. Et voilà.
Chez nous en Bretagne, ouais, ça serait.
Et chez nous en Bretagne, logiquement, on devrait le trouver partout. Sauf que dans la réalité, déjà, ces populations sont très fragmentées, en fait. Il a pas une répartition continue. Et puis, il semble être absent d'une large part du Morbihan, notamment. Et puis il y a des gros trous dans la raquette aussi, dans le Finistère, au sud des Côtes d'Armor. Enfin, il y a des endroits comme ça où, de façon un peu surprenante, il n'est pas présent. En tout cas, il n'a pas été encore noté.
C'est peut-être lié au milieu qu'il affectionne. Qu'est-ce qu'il lui faut à l'halite accoucheur?
Justement, c'est le le milieu n'explique pas a priori sa désertion de larges parties de notre territoire. Il vit au milieu des hommes, le crapaud accoucheur ou l'alite accoucheur. C'est vraiment une espèce dite anthropophile et qui est aussi thermophile, c'est-à-dire qu'il aime bien un peu de chaleur. Alors, pour un batracien, il est un peu spécial parce qu'il déserte les zones inondables. Voilà, on pourrait s'attendre au contraire, mais
ah
non.
Ah ouais, étonnant, ouais, c'est
ouais,
vrai.
C'est vraiment une espèce de milieu sec et de milieu minéralisé. Voilà, donc on va le trouver dans un pierrier, dans les fissures d'un muret, dans un petit terrier sur un talus, le long d'une voie ferrée, voilà. Et il vit caché. Donc c'est pour ça qu'on l'entend beaucoup plus qu'on ne le voit.
Il vit plutôt la nuit, je suppose. Et... non, pas forcément.
Alors le chant est émis plutôt la nuit, oui. Quoi qu'en pleine période de chant, on peut l'entendre en fin de journée, mais c'est effectivement plutôt la nuit. Après, il est aussi tout le temps à proximité d'un point d'eau, parce que malgré tout, c'est un amphibien. Et il faut bien qu'il dépose cet étard, parce que voilà, il ne pompe pas dans l'eau, d'où c'est sa petite particularité aussi. Mais il dépose cet étard dans l'eau. Donc il faut qu'il y ait un point d'eau à proximité immédiate de son habitat terrestre.
Ouais, il va pas faire des kilomètres pour aller pondre. Quand
même. Non, c'est de l'ordre de 100-200 mètres. Quoi.
Il se déplace pas tellement sinon, alors en dehors.
Ben non. Oui. C'est bien ça son souci. Ah. En fait, il a une double étiquette, c'est qu'il est considéré comme pionnier, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de coloniser facilement un nouvel endroit, un nouveau point d'eau, un nouveau muret.
Ça peut être un avantage, on va
ça
dire.
Peut être un avantage. S'il y a une population qui est installée dans le coin, il va coloniser facilement un nouvel endroit. Mais par contre, c'est pas le roi de la migration, il a un faible rayon de dispersion. Quoi.
Ouais, si le milieu est hostile, il peut pas vraiment s'enfuir loin. Quoi.
Non. Ouais, non. D'où son problème actuel, c'est-à-dire que tous ces habitats qui sont liés à des anfractuosités sont plutôt en régression en ce moment, parce qu'on a plutôt tendance à mettre à combler les fissures, à rénover des habitats, des quartiers, des choses comme ça, pour des tas de bonnes raisons, mais pour le crapaud accoucheur, c'est pas une bonne nouvelle.
Lui, il aime mieux les vieux murs qui s'écroulent, quoi.
Oui, voilà. Il est plutôt ruine que loft moderne.
Qu'est-ce qu'il mange, en fait? Parce qu'il y a ça aussi.
C'est un invertébrivore. Je sais pas si c'est très correct, mais en tout cas, ça dit ce que ça veut dire. Voilà, classique, quoi.
Du mou, alors, il mange du mou.
Oui.
Il mange pas des insectes ou des arthropodes.
Il peut. Du mou, plus ou moins, quoi. Oui, voilà, d'accord. Mais, tout ce qui est vers de terre, même mollusques, terrestres, insectes, araignées, voilà, crustacés, donc les petits cloportes, choses comme ça, il peut les... Voilà,
donc carnivore, il mange pas du tout de légumes.
Non. Non. Et quasiment que des invertébrés. Bah, c'est tout petit, hein. Ouais, donc ouais, c'est des proies adaptées aussi à sa taille. Quoi.
Alors on l'appelle accoucheur, alite accoucheur, en raison de ses mœurs de reproduction. Alors allons-y pour la reproduction.
Ça,
la femelle et tout
aussi,
ça, le mâle, etc. Alors le mâle d'abord chante. C'est ça.
Alors le mâle, c'est lui, le chant flûté là que tu as diffusé avant, c'est lui, c'est le mâle. Donc c'est un chant qui est perceptible assez loin quand même. Hein, on l'entend bien. Ouais. Les femelles se déplacent et ensuite il fait comme tous les amphibiens finalement. Il y a un amplexus, c'est-à-dire que chez les anoures, la fécondation elle est externe, c'est comme chez le crapaud. Commun ou épineux. Donc il y a un amplexus, le mâle il masse la femelle. Et c'est là où ça va. Donc la femelle, elle va pondre, elle va éjecter sa ponte en chapelet, là, qui va être ensuite fertilisée.
Et il reste aussi pendant longtemps, là, sur la femelle, non comme,
C'est peut-être moins long que le crapaud épineux, mais ça dure le moment que ça dure, parce que la femelle, il faut qu'elle ait le temps d'éjecter sa trentaine d'œufs. C'est pas beaucoup d'œufs.
Non, c'est pas énorme,
Mais c'est justement. Il n'y a pas beaucoup d'œufs, parce que, en fait, c'est là où sa technique varie par rapport aux autres amphibiens. Et c'est là où son nom d'accoucheur prend tout son sens. C'est-à-dire que contrairement aux autres qui vont faire ça dans l'eau, à proximité immédiate de l'eau, et la ponte va être déposée dans l'eau, puis après terminée, lui, le mâle, il récupère la ponte, et il a nous, autour de son corps et de ses pattes postérieures. Et il se balade avec la, le chapelet d'œufs.
Comment il fait pour nouer, enfin, j'arrive pas à visualiser, il se roule sur lui-même, non?
Bah, non, c'est gélatineux, c'est très collant, surtout quand ça sort de, c'est éjecté par la femelle. Donc le cordon, il sèche et puis il durcit et il s'attache. Alors il fait pas de cocarde, quoi. Hein, Et le filament fait des tours et des tours autour des pattes et du corps et se retrouve en grappe sur le mâle. Alors il peut faire ça deux fois, trois fois et avoir trois pontes de trois femelles différentes le dos, et il peut porter une centaine d'œufs ça. Alors, et il reste dans son habitat terrestre, il n'est pas encore au contact de l'eau.
Et combien de temps alors avec ces œufs-là?
Trois semaines, quatre semaines. Voilà, le temps que les œufs arrivent quasiment à maturité.
Parce que les œufs, en fait, ils ont besoin un peu de chaleur, en fait, c'est ça.
Et d'humidité aussi. C'est pour ça qu'il
L'humidité du père,
Et puis de l'endroit où il est, les infractuosités, etc. Mais il ne faut pas que ça soit trop humide, parce qu'après ça moisit. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Enfin bon, voilà, il y a des critères quand même.
Il sait ce qu'il lui faut, quoi, en fait.
Oui.
Mais il ne va pas se tremper dans la mare pour autant, quoi.
Non.
D'accord.
Sauf si il est confronté à une canicule, mais dans le Finistère, il est relativement tranquille, quoique, je parle peut-être un peu trop vite. Mais bon, voilà. Et globalement, au bout de trois semaines, à peu près, il va à l'eau. Alors là, il faut qu'il choisisse une nuit où il pleut pas, justement, parce que si jamais il pleut pendant le trajet, l'œuf va éclore directement sur le dos, et ça, pour le tétard, c'est pas une bonne idée.
Ah ouais.
Ouais. Donc il attend que la nuit soit plutôt étoilée, et il va jusqu'à l'eau, et là il largue la ponte qui direct se éclot.
Mais même s'il y a trois femelles différentes qui ont été pondues à des temporalités différentes, il est quand même, tous les tétards vont être en même temps.
Ouais, globalement, parce qu'en général, il y a une journée ou deux d'écart.
C'est quoi la période déjà, la période des amours?
Alors, la période des amours, en tout cas, le chant.
Ouais.
C'est très long, la période, hein, comparé à d'autres batraciens.
Ouais.
Globalement, on peut l'entendre d'avril à octobre.
Ah
quoi.
Oui. Ah oui,
ouais,
oui.
Voilà. Mais il semblerait qu'à l'intérieur de cette longue période, il y ait au moins deux pics de reproduction. Plutôt maintenant, là.
Ouais.
Alors, le pic de reproduction, pic de largage de tétard, dans l'eau.
C'est ça.
Là, maintenant, en juin, et après, plus tard, en saison, à la fin du mois d'août. Et pour le dernier cas, en fait, comme il faut à peu près deux mois pour le tétard minimum pour se métamorphoser en jeune adulte, il faut que il y a plus le temps, quoi. Donc le tétard, il passe l'hiver dans l'eau et il va ressortir au printemps de l'année suivante.
Ah oui, d'accord.
Et là, il peut être très gros. C'est des gros tétards, que contrairement aux crapauds épineux où les tétards restent tout petits. Et donc, il en fait plein tout petit. Lui, il en fait pas beaucoup, mais ils sont très gros.
D'accord.
Et ils font jusqu'à même 9 cm. C'est quasiment le double de l'adulte, quoi.
Ah oui. Ah bon,
ouais.
Ils vont se rétrécir après
Oui. Bah après, le tétard, il perd sa queue. Donc déjà,
voilà. Déjà, il perd les
éléments. Et l'adulte, il va être tout à fait la même taille que la version printemps.
Oui,
voilà, mais c'est
alors, ils sont largués dans des endroits, enfin dans l'eau, ok, mais c'est pas forcément dans les mares, ça peut être dans des fossés ou non, ils sont...
Ah ouais, alors de ce point de vue-là, il est pas très exigeant.
C'est ça, les crapauds, on dit toujours qu'ils sont pas très difficiles.
Ben non, et lui aussi c'est pareil, moi je l'ai même vu pondre, larguer cet étard dans un bassin de rétention d'eau d'un sériste, quoi, donc vraiment le bassin bâché, sans intérêt naturaliste, on va dire.
Ah ouais.
Voilà, il va pondre là-dedans. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait de l'eau toute l'année. Uh-huh. Ça, c'est quand même il est pas dans des milieux temporaires, parce que là, il y a de la casse. Mais ça peut être des lavoirs. Hein. Il est dans les lavoirs, notamment en plus le lavoir. Et ben, il y a une fontaine qui est associée ou une chapelle où il y a des anfractuosités dans la roche.
Ça, donc, c'est bien.
En général, ça lui plaît bien ce genre d'endroit. Il peut être dans des ruisseaux à cours très lent. Il peut même supporter un peu de poisson, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de végétation pour que les tétards puissent se planquer un peu.
Ouais, c'est ça, parce que les tétards mangent, eux, donc ils mangent quoi, des larves de ditiques ou des trucs comme ça.
C'est plus ou moins omnivore, détritivore, généraliste. Ah bon, c'est pas très
exigeant. Eux aussi mangent aussi des végétaux, quoi.
Non plus, ils peuvent,
Et par contre, ils se font manger les tétards.
Bah après, évidemment. Oui, voilà. Après, ils sont pas immunisés, toxiques comme le tétard de crapaud épineux. Mais globalement, c'est des grosses bêtes. Mais du coup, ils peuvent aussi se faire attraper par une larve de ditique.
Oui.
Ouais, voilà. Ils font. Mais globalement, c'est quand même même assez costaud, donc il y a moins.
Il y a pas de perte. Il y a moins de pertes
que chez d'autres espèces qui pondent beaucoup plus d'œufs et qui laissent la ponte sans surveillance.
C'est ça. Parce que là, il la surveille pas quand même une fois qu'il l'a.
Il surveille pas les tétards, non. Mais la ponte est bien surveillée.
Ok. Et donc, quand il la transporte, cette ponte, elle est quand même pas la. Elle peut être une proie aussi. Est-ce qu'il peut se faire picorer par un oiseau? Je sais pas. Enfin, j'imagine.
Jamais. Ça reste un crapaud.
Ouais.
Il est. Après, il y a d'autres soucis. Ça peut être les écrasements aussi, parce que mine de rien, il fait 200 mètres. Alors par exemple la population de crapauds dont je parlais tout à l'heure et qui est largué les tétards dans le bassin d'un sériste, il devait traverser un pavillon quoi pour y arriver. Bon, donc là il y a un peu de risque parce qu'ils marchent sur les trottoirs, ils sont vraiment au cœur des gens, des hommes.
Donc ceux qu'on écrase accidentellement en marchant parfois, ça, c'est ça en général, c'est des alites quoi.
Ça peut. Après le crapaud épineux, il peut être aussi en ville.
Et donc on en arrive justement à ce qui est un peu les menaces. Enfin déjà il y avait une observation participative qui avait été menée par Bretagne Vivante pour les alites accoucheurs. Bon, déjà ça en est où? C'est fini non?
C'est pas fini parce que là on avait fait ça sur 2 ans. Là c'est la deuxième année. Donc on peut toujours signaler les observations d'alites. Donc une observation un contact sonore. Ça fonctionne, on n'est pas obligé de le voir, on entend le chant, ça suffit quoi. S'il y a Alit, il y a que lui qui chante comme ça, il y a pas de souci.
Il y a pas de confusion possible.
C'est relativement facile à reconnaître. Hein.
Ouais.
Le docteur Toutou l'appelait le journal La Hulotte. Voilà, docteur
ça.
Toutou. Donc docteur, on a compris pourquoi et le Toutou, on l'entend là.
Toutes.
Oui.
D'accord. Et donc on le signale sur le site internet, c'est
ça. Alors voilà. Et après, il n'y a pas de canal dédié à la remontée des données pour cette opération de science participative. C'est sur le site Faune Bretagne en fait, qui est le portail d'observation en ligne. Et nous, on récupère les informations dans Faune Bretagne. Donc j'ai regardé un petit peu avant de venir, parce que je savais qu'on allait me poser la question. Ouais. Alors j'ai en 2019, parce que j'ai occulté 2020 pour les raisons Covid. Et donc, du coup, en 2019, on a globalement une quarantaine de données par an qui arrivent sur le site de Faune Bretagne. Et là, en 2021, on en a eu 65, 70. Ah ouais. Bon, donc je pense qu'on a pu augmenter grâce à la diffusion de l'appel à données.
Et quand on dit des données, ça veut dire que les gens, ils en ont vu un seul en général, pas...
En général, c'est entendu, hein, c'est souvent entendu.
Ah, entendu, ouais. Et ils se disent à quel endroit ils sont.
Oui, voilà. Ouais. Ah oui, c'est géolocalisé, en fait.
D'accord.
Quand on rentre sur le portail, il faut s'inscrire déjà. Mmh. Parce que ça permet d'avoir aussi une adresse mail pour pouvoir retourner vers l'observateur en cas de demande particulière. Mmh. Et ensuite, on date, on géolocalise la donnée. On pointe en fait sur une carte et ensuite on renseigne l'espèce. On peut saisir les amphibiens, mais on peut saisir aussi les reptiles, les oiseaux.
Ah oui, c'est pas qu'une observation sur l'alite accoucheur.
Non. Nous, on est à l'intérieur de ce grand, de ce grand machin là où on peut saisir plein de trucs. Et on note aussi éventuellement le nombre, le type de contact aussi. Est-ce qu'on l'a entendu? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que c'était un mâle ou une femelle? Enfin, si on a les informations, on peut les donner. Puis essayer d'évaluer le nombre de chanteurs aussi, c'est bien.
On en entendre plusieurs. Ouais, ils sont pas trop. Ouais. Enfin, ils se font concurrence, mais ils se tabassent pas.
En fait, il y a une étude qui a été faite en Loire-Atlantique là sur la commune de Nantes notamment et où il y avait des quelques populations où il y avait jusqu'à 30 individus, 30 mâles chanteurs.
Ouais.
Mais ça c'est
et toujours la même note non ou ça peut dépendre en fait.
Ah non mais après c'est globalement à peu près identique mais ils se répondent donc les chants se chevauchent quoi.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais globalement la majorité des populations c'est quand même des populations où il y a 4-5 mâles chanteurs quoi, voilà.
Comment est-ce que la femelle elle se détermine? Ça, le chant est important mais c'est quoi, ça va être le volume sonore du chant,
faudra inviter une femelle d'Alit la prochaine fois pour lui demander.
Tu ne diras rien mais qu'elle dise rien.
Mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a quand même des critères de ce type-là, quoique
Celui qui chante le plus longtemps, peut-être.
Quoique, si ça se passe comme chez les autres espèces d'amphibiens, la femelle, elle se déplace et puis elle est prise, quoi. Et on ne lui demande pas son avis, elle est attrapée. Je pense que le chant l'attire, et puis après, comme elle peut se reproduire elle aussi plusieurs fois, elle refait des ponts. Enfin bon, voilà. Je suis pas certain que ce soit aussi, aussi important la qualité du chant que chez un oiseau, quoi, par
d'accord,
exemple.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui menace les alites accoucheurs, alors?
J'ai déjà évoqué ça avant, là. C'est vraiment cette histoire de restauration d'habitat.
L'absence de ruines,
l'absence de ruines, d'anfractuosité, de choses comme ça. Le comblement aussi des mares, la détérioration de ces habitats aquatiques. Ça peut être un souci aussi. Puis là, il faut les deux ensemble. Il vit au cœur des humains, donc c'est sa chance, et puis c'est aussi la difficulté, puis sa croix aussi, parce que la menace aussi qui pèse sur lui, c'est lié aussi à sa faible capacité de dispersion, c'est-à-dire que quand une population saute. Parce que le lavoir est nettoyé, parce que le mur est restauré, parce que la mare est comblée, il y a pas de possibilité. Un alite, ça vit 5 ans, donc c'est l'espérance quand même, mais c'est quand même court pour. Il est sensible aussi à la fragmentation de ses habitats. C'est-à-dire que les populations qui restent sont trop éloignées les unes des autres pour se croiser, pour se retrouver. Donc il y a moins de brassage génétique. Les populations sont encore plus fragilisées. C'est une espèce d'effet boule de neige comme ça, qui fait qu'au final, c'est une espèce qui, sur cette fameuse liste rouge dont je parlais avant, est considérée comme quasi menacée à l'échelle de la Bretagne. Ça veut dire quand même que s'il n'y a pas des mesures de conservation qui sont prises dès maintenant, dans la prochaine mouture de la liste rouge qui va avoir normalement lieu d'ici 5 ans,
il sera menacé.
Voilà.
Okay.
Bon. Donc c'est quand même une espèce qui commence à être patrimoniale, quoi.
D'accord. Bon, ben voilà, on en a parlé. En tout cas, donc maintenant les gens connaissent, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Merci Stéphane Visa. Alors, on pourra réécouter déjà cette émission sur le site de Radio Évasion. Et bien sûr, on retrouvera Bretagne Vivante pour d'autres portraits d'animaux et de végétaux la saison prochaine. À bientôt. Et dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM, avec d'autres vivants, Marie Cultive qui nous vante la bourrache, et puis aussi une école d'été du saumon à Cizun. Mais
j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le feu. Mais j'aime pas me brûler.
Vous êtes dans l'EM, saison 6 de l'émission quotidienne de Radio Évasion sur le 100.4. Vous venez d'entendre Jouer avec le feu par Les Shérifs. Les Shérifs, c'est l'un des nombreux groupes qu'on pourra écouter au Festival de la mer à Landunvez les 29 et 30 juillet. Il y aura aussi en tête d'affiche, par exemple, l'Ophophora.